L'enregistrement est débuté, oui.
OK. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 juillet 2020. On procède encore en vidéoconférence. Fait que pour l'occasion, je me permets de me présenter. Yves Lévesque, maire. Siège numéro 1.
Siège numéro 1, Daniel Audette, président des travaux publics. Bonsoir.
Siège numéro 2, Marie-Pierre Touga.
Siège numéro 3, Chantal Fontaine.
Siège numéro 4.
Normal.
Son micro fermé.
Monsieur Deragon, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Le son ne fonctionne pas, M. Deragon.
OK. Bon. Normand Deragon, siège 4, Finance et Développement.
Siège numéro 5, Marie-Ève Brin, Sécurité civile, Pompiers et Commission des eaux.
Siège numéro 6, Mona Beaulac, Loisirs, Culture, Vie communautaire et Matières résiduelles.
Bonsoir tout le monde, Guy Coulon, directeur général.
Ici Gisèle Messier, adjointe au greffe.
Parfait, bon, bonsoir tout le monde. Fait que si ça me prendrait une proposition, tout le monde a reçu l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance et de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'on vous a expédié.
Chantal.
Une proposition. Chantal, secondée par
Mona.
Daniel.
Mona. Première période de questions, monsieur le DG, on n'a pas reçu de questions.
Je n'ai pas reçu de questions par courriel. On avait fait l'indication au niveau de l'ordre du jour qu'on a rendu public lundi. Puis, où est-ce qu'on a invité les citoyens à nous laisser des questions par courriel pour qu'on puisse y répondre? Mais on n'a rien reçu.
Parfait. On serait à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin dernier 2020. Tout le monde en a reçu copie, en a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On semble que non. Est-ce que j'ai une proposition?
Marie-Pierre.
Marie-Pierre, secondée par?
Daniel.
Marie-Pierre, secondée par Daniel.
Oui.
On serait rendu au point numéro 1, Commission du développement économique des finances et de la vérification financière, M. Deragon.
1.1, merci, M. le maire. Point 1.1, rapport du président. J'ai deux points à mentionner aujourd'hui. Un peu plus complexe, le premier. Il y a une rumeur qui circule à propos du fonds de roulement. J'aimerais clarifier le point. La plupart des administrations publiques, comme la ville de Bedford, utilise une comptabilité qu'on appelle comptabilité par fonds. À cette dernière, il ne faut pas confondre fonds de roulement et excédent ou déficit accumulé ou de l'année en cours. Deuxièmement, le fonds de roulement dans la comptabilité par fonds prend un sens très différent dans l'entreprise privée. En gros, le fonds de roulement est déterminé par résolution du conseil et puis quand on a déterminé ça, on place ces sommes-là, si on n'a pas besoin, dans un compte très sécuritaire, des outils très sécuritaires. On récolte à peu près 0,5, 1,5 à 3/4 %. Or, il arrive que le conseil décide de prêter une partie du fonds de roulement pour financer l'acquisition d'un actif, surtout dans le cas où c'est profitable. Un exemple très simple, le camion, les matières résiduelles, notre bon camion de vidange qu'on aime bien, qui est propre, qui est beau. Quand tu l'achètes, on l'a payé comptant. Mais plutôt que de le financer par emprunt à 3,25 % au minimum, on a décidé de prendre une portion dans le fonds de roulement. C'est donc dire que si tu t'évites une dépense de 3,25 % d'intérêt, puis tu perds un revenu de 0,5 à 3/4 %, tu fais au minimum, tu économises au minimum 2,25 % annuellement, ce qui n'est pas bête. Ceci dit, bien sûr, il faut rembourser le fonds de roulement. À titre d'exemple, dans le cas qui nous occupe, On a mis ça sur 5 ans pour être très conservateur et gérer prudemment pour rembourser le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, il est toujours là. C'est juste qu'on décide de se prêter à nous-mêmes à meilleur taux qu'une banque ou que le gouvernement peut le faire. Deuxième point. Point très simple, celui-là. Période de sécheresse marquée. On a remarqué que des agriculteurs, je ne sais pas, là, je ne veux pas affirmer rien, mais surtout des agriculteurs maraîchers, à ce qu'il me semble, s'approvisionnent en eau directement chez les consommateurs d'eau potable du réseau de la ville de Bedford. Ceci doit cesser immédiatement. Je fais donc appel à la population. Si vous remarquez des camionnettes avec ce qu'on appelle des contenants en plastique blanc, là, des totes, qui contiennent à peu près 300 gallons et qui sont en train de se remplir chez un résident, contactez la ville. C'est tout ce que vous avez à faire. On a besoin de l'adresse, si possible, d'une photo, si vous le pouvez. Mais votre rôle se limite à ça. Il n'est pas recommandé du tout d'aller régler le cas vous-même. La ville, son rôle, c'est de faire enquête et de résoudre les cas de délinquance. Selon mon expérience, c'est surtout la semaine qu'on voit ces camions. Vous en faites pas, on ne sera pas des sauvages. Ça va probablement être un avertissement au premier appel dans les cas, dans les situations mineures. De toute façon, on peut s'approvisionner au garage municipal qui possède un compteur. Et j'ajoute que le prix est raisonnable. Assurez-vous donc, pour ceux qui ont besoin d'eau et qui ne sont pas des résidents, de contacter les travaux publics pour obtenir l'autorisation et la procédure à suivre. Merci. Point 1.2. Donc, nomination de la mairesse suppléante.
Donc, en remplacement de Mme Touga, serait le tour de Mme Chantal Fontaine d'entamer un mandat de 4 mois qui débuterait le 7 juillet pour terminer le 2 novembre prochain. Donc, on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai une proposition? Normalement, secondée par
Marie-Pierre.
Mona.
Marie-Pierre.
1.3. Plan de relance des activités commerciales dans le cadre de la crise de la COVID-19.
Donc, afin de soutenir la relance commerciale, le conseil de ville souhaite mettre en place un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, on parle de sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative de la ville. On souhaiterait que les commerces puissent, entre le 8 juillet et le 10 septembre, installer des abris temporaires en toile, tels que des tentes ou chapiteaux, pour la vente de produits ou marchandises normalement vendus dans leur établissement. Qu'ils puissent également aménager des terrasses couvertes ou non pour la consommation de boissons et aliments. Il serait également possible de procéder à l'agrandissement d'une terrasse ou d'un établissement détenant un permis d'alcool. Ceci sans le soustraire là, de ses obligations là, aller à la régie des alcools, des courses et des jeux pour aller chercher les permis adéquats. La ville pourrait installer à différents endroits des affiches, outils ou éléments décoratifs pour rappeler les bonnes pratiques en lien avec la COVID-19. Les commerçants pourront également installer à divers endroits là, sur le lieu de leur établissement des affiches, outils ou éléments décoratifs leur permettant là, des bonnes pratiques également en lien avec la COVID-19. De plus, la ville a déjà installé certaines tables de pique-nique à la place du docteur Adrien Touga et du Square du Souvenir. Donc, le but est de permettre là, aux gens de peut-être manger dans un lieu plus convivial. Les tables de pique-nique ne sont pas à l'usage exclusif des restaurateurs. Donc, oui, il y a une portion là, qui a une vocation pour favoriser les take-out à être consommés sur le territoire de la rue principale. Il serait également possible de consommer de l'alcool en consommant un repas entre 11h et 22h à la place du docteur Adrien Tougaud au Square du Souvenir, et ça à condition à ce que l'alcool soit acheté chez le restaurateur à l'achat d'un repas pour emporter ou conformément au permis d'alcool du restaurant. La ville pourra permettre des événements sporadiques qui pourraient être considérés comme des nuisances à cause du bruit. Donc, compte tenu que le règlement nous permet là, de réaliser certains événements ou d'autoriser certains événements, mais on va continuer à le faire. La ville souhaite également autoriser l'installation de chapiteaux à la place du public du docteur Adrien Touga pour les marchands et artisans permettre l'installation de chapiteaux à la place du docteur Nain pour les marchands et artisans ayant une place d'affaires sur le territoire de la ville de Bedford, mais qui n'ont pas pignon sur rue sur la rue principale. Donc, de cette façon-là, ben, on pourrait probablement être capable de faire des petites découvertes où les touristes pourraient faire des découvertes des produits qui sont fabriqués sur le territoire. Donc, il y a différentes autres modalités donc, que vous avez dans le projet de résolution, mais on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Est-ce que j'ai une proposition?
Marie-Ève.
Marie-Ève, secondée par Normand.
1.4. Je n'ai pas de correspondance, M. Coulombe.
Il n'y en a pas qui se sont ajoutés, M. Deragon.
Merci à vous deux.
Bon, ben, parfait, merci. C'est ce qui met un terme au point 1, s'il n'y a pas de questions. Au point 2, Commission de la sécurité publique et civile, Mme Brin.
Bonsoir, merci M. le maire. Je vais profiter moi aussi de mon crachoir, comme l'a fait mon collègue conseiller numéro 4, juste pour faire un petit appel à la prudence à proximité des plans d'eau. Je pense à la tragédie de Noyant en fin de semaine. Quand c'est des gens qu'on connaît, ça nous rattrape aussi. Donc, simplement, ne pas baisser la garde, parce que cette tragédie-là alourdit aussi le bilan. Et je vais juste apporter toutes mes pensées à la famille, en fait. Donc, 2.2, demande d'aide financière pour la formation des pompiers 2021-2022.
Donc, effectivement, afin d'assurer une relève au sein de la brigade, nous sollicitons l'autorisation pour obtenir une aide financière pour la formation de deux nouveaux pompiers. Donc, on vous en fait la recommandation.
Marie-Ève.
Est-ce que j'ai... Marie-Ève, secondée par...
Chantal.
Chantal.
Au niveau de la correspondance, ça semble assez tranquille dans ce mois de juillet.
Il n'y a pas d'autres correspondances, Mme Bray.
Exactement. C'est tout pour moi.
C'est bien, merci. C'est ce qui met un point au point 2, s'il n'y a pas de questions. Point 3, Commission de la gestion des eaux, Mme Bray.
Ah, c'est encore moi. Donc, au niveau du point 3.2, c'est question d'un mandat à la MQM, en fait, avec un appel d'offres pour des achats regroupés de produits chimiques qu'on a besoin au niveau du traitement des eaux.
Donc, effectivement, la Ville souhaite là, renouveler sa participation au processus d'appel d'offres d'achat regroupé, spécifiquement pour l'achat de PAX XL6, qui est un produit chimique là, nécessaire au traitement de nos eaux. Donc, habituellement, là, cette façon de faire-là amène des bonnes économies pour la Ville. Donc, on vous en fait la recommandation.
Marie-Ève.
J'ai une proposée par Marie-Ève, secondée par...
Marie-Pierre.
Parfait. Au niveau du 3.3, au niveau des correspondances, écoutez, si je fais un petit wrap-up vite, on a eu deux communiqués de l'OBV Brome-Missisquoi. Le premier traite de la mortalité de poissons qu'il y a eu dans la baie, dont la cause est inconnue. On a revu des carpes et des brochets. Communiqué qui a été transmis à toutes les municipalités, les limitrophes à la baie. Et puis, l'autre communiqué au niveau des plantes envahissantes exotiques concernant un projet au niveau de South Broughton concernant la renouée du Japon et la tortue des bois. C'est tout pour moi pour le point 3.
Parfait, merci. C'est ce qui met un terme au point 3. Point 4, Commission des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Bourlac.
Merci, M. le maire. Demande d'appui Bedford Cuisine 2020 et je me retire.
Donc, les organisateurs du Bedford Cousins souhaitent renouveler leur événement le 6 septembre prochain. Ils sollicitent la participation financière de la ville pour un montant de... On vous propose là, un 1 000 $ et certaines contributions en nature. Dans le projet de résolution, on détermine un peu là, quelles sont les modalités là, des choses, des soutiens techniques là, qui sont sollicités par les organisateurs. Puis on rappelle aussi la contribution quand même importante de la ville de Bedford qui a investi en 2018 plus de 400 $ par citoyen en matière de sport, loisirs, culture et vie communautaire, soit plus du double là, de la moyenne nationale pour le Québec. Donc, on vous en fait la recommandation.
Et comme c'est dit, c'est remboursé en cas que si l'événement n'a pas lieu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Je propose, Marie-Pierre.
Proposé par Marie-Pierre, secondé par...
Normand.
C'est bon. Est-ce que Mme Beaulac est de retour?
OK, 4.3. Oui.
Allez-y.
De retour. OK. 4.3, autorisation, food truck, érablière, la coulée suisse.
Bon, l'érablière, la coulée suisse souhaite renouveler son expérience d'installer un food truck une fois par mois dans le stationnement du centre Georges Perron, soit pour les mois de juillet ou septembre. Les événements d'érablière avaient déjà tenu des événements similaires en avril, en mai et en juin. Donc, on considérant aussi qu'on n'a pas eu de plainte à cet effet-là, on vous autorise là, de renouveler l'expérience pour les 3 prochains mois selon les mêmes modalités. Donc, on vous en fait la recommandation.
Je propose Mona.
Proposé par Mona, secondé par
Marie-Pierre.
Monsieur Audette, vous êtes toujours là?
Oui, je viens d'arriver. Je quitte et c'est bizarre, là. Je suis présent.
Parfait.
C'est bon. 4.4, correspondance. Donc, c'est ça. Une lettre avait été acheminée au ministère des Transports pour la SAC, pour notre bureau de mandataire des permis et matriculation. Puis, c'est une réponse à cette lettre-là. Et le deuxième, c'est lettre FCEI municipalité. C'est au niveau des PME, c'est d'encourager que les municipalités soutiennent les PME qui soutiennent nos communautés.
C'est tout. C'est bon. Questions ou commentaires au point 4? C'est bon pour tout le monde. Point 5, commission de l'Office de l'habitation Brome-Missisquoi, Mme Fontaine.
Merci beaucoup, M. le maire. J'aurais deux petites choses à dire. Je voulais juste rappeler qu'à la villa, on n'avait pas eu aucun cas de la COVID, ce qui était très bien. Et la deuxième chose, c'est que toutes les petites maisonnettes aux offices d'habitation vont avoir des petites rénovations qui vont leur faire bien du bien. Donc, c'est tout pour moi pour l'office d'habitation.
Questions ou commentaires? Merci. Point 6, commission des matières résiduelles, Mme Beaulac.
Merci, M. le maire. Donc, correspondance, on a l'analyse de la conformité des voyages par municipalité, l'analyse du tonnage, compostage par municipalité et le procès verbal du 12 mai de la régie.
Questions, commentaires? Non? C'est bon. Et s'il mettrait un point au terme, un terme au point 6, commission, point 7, commission de l'urbanisme, Mme Fontaine.
Merci beaucoup. Donc, on va passer au point 7.2, recommandation du CCU, le PIA.
Donc, au niveau des PIA, on a eu une demande de réfection de la toiture de tôle sur les annexes de la résidence située au 197 rue de la Rivière. Donc, le CCU nous recommande d'autoriser la demande de remplacement de la tôle comme telle. Donc, on vous en fait la recommandation.
J'ai une proposition.
Chantal.
Chantal, secondée par Marie-Ève.
Pour toujours dans le PIA, on a le 9 rue de la Rivière qui souhaite ajouter une porte en façade. Donc, conformément au document déposé, le CCU vous recommande d'autoriser la demande de PIA qui a été formulée par le propriétaire du 9 rue de la Rivière. Donc, on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai une proposition?
Normal.
Normand, secondé par Mona.
Toujours dans le PIA, on a le propriétaire du 35 rue Dutch qui souhaite ajouter une véranda à l'arrière de sa résidence. Et ce, conformément aux plans là, qui ont été présentés par Mme Isabelle Brault et datés du 9 juin 2020. Donc, puis considérant aussi que l'extérieur, le revêtement d'extérieur de mes becs blancs s'harmonise avec la résidence et que le CCU en fait la recommandation, bon, on vous recommande d'octroyer la demande de PIA. On vous en fait recommander.
Est-ce que j'ai une proposition pour la recommandation?
Chantal?
Chantal, secondée par?
Marie-Pierre.
Marie-Pierre.
Ah, toujours encore dans les PIA, donc c'est le dernier. Donc, on a pour le propriétaire du 68 rue Phillipsburg qui souhaite faire la démolition, la reconstruction d'un vestibule. Donc, les travaux doivent se faire conformément au plan soumis et impliquent la démolition de la partie du deuxième étage de l'agrandissement de la résidence. Également considérant que le demandeur suivra la pente du toit devenue apparente du reste de la toiture, considérant que les revêtements extérieurs de Maybeck Bourgogne sont harmonieux avec la résidence, le CCU vous recommande d'accepter la demande de PIA pour le 68 rue Phillipsburg. Pour vous en faire recommandation.
Il y a une petite question. Jusque dans la. Il y a la phrase de l'autre résolution d'avant là, qui a été copiée-collée, je pense, juste pour la modifier pour le restant.
Ah, exact.
La phrase avec Mme Brault, elle est répétée dans ce cas-ci. Wow.
OK, c'est noté.
Bon, merci. Proposé par Chantal.
Oui.
Marie-Ève.
Secondé par Marie-Ève.
Alors, 7.3, recommandation du CCU, demande de dérogation mineure au lot 6 375 985 à 6 375 988 rue Industrielle.
Donc, la ville est propriétaire de ces quatre lots dans le parc industriel. Donc, considérant qu'elle souhaite vendre ces lots-là pour faire du développement économique sur le territoire de la ville. Puis, mais avant de procéder, il y aurait lieu là, d'apporter certaines dérogations mineures afin de rendre les terrains conformes. Donc, c'est pour ça qu'on vous a préparé un projet de résolution là, de demande de dérogation mineure. Donc, au niveau de la résolution, ça reste que tous les terrains visés respectent la superficie minimale requise, là, qui est de 8000 m². On n'a pas parlé du lot 6 375 984, même s'il ne respecte pas là, les exigences minimales, le contenu qu'on s'en sert comme bassin de rétention d'eau, il n'est pas nécessairement là, assujetti à la dérogation mineure. Par contre, là, il y a une dérogation mineure qui est requise pour le lot 6 375 985 afin d'autoriser une profondeur de 65,39 mètres alors que le minimum requis est de 80 mètres. Il y a lieu d'octroyer une dérogation mineure requise pour le lot 6 375 986 afin d'autoriser une largeur de 80,71 mètres alors que le minimum requis est de 100 mètres. Il y a une dérogation mineure qui est requise également pour le lot 6 375 987 afin d'autoriser une largeur de 93,26 mètres et une profondeur de 75,23 mètres alors que le minimum les minimums respectifs requis sont de 100 mètres et 80 mètres. Puis, il y aurait lieu également d'octroyer une dérogation mineure requise pour le lot 6,375,988 afin d'autoriser une largeur de 80,97 mètres lorsque le minimum requis est de 100 mètres. Donc, considérant que les terrains visés tels qu'illustrés sur le plan sont viables et peuvent être utilisés à des fins auxquelles ils sont destinés, que cette demande ne crée pas de préjudice aux immeubles voisins, on vous recommande d'accorder une dérogation mineure au DILO, comme vous avez mentionné sur le 20 du triennal.
C'est bon. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions?
Non.
Est-ce que j'ai une proposition? À quelqu'un une proposition? Ouais.
Chantal.
Mona.
Proposée par Chantal, secondée par Mona.
Alors, 7.4. Remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite, dérogation mineure pour les lots 6,375,985 à 6,375,988 rue industrielle.
Peut-être juste informer pour toutes les demandes de remplacement de l'Assemblée publique par consultation écrite. Là. Peut-être faire une petite remarque aux membres du Conseil. Le gouvernement a adopté un arrêté 2020-049 qui vient permettre à la municipalité là, de rendre ça peut-être un peu plus à son choix. Puisque maintenant les consultations publiques peuvent se tenir en respectant les dispositions de distanciation physique. Donc, il y a toujours la possibilité de, malgré tout, d'utiliser là, les dispositions de l'arrêté 2020-033 pour permettre la tenue de consultations écrites. Donc, ça vaut pour toutes les autres que je vais vous parler tantôt. Donc, ça reste que compte tenu qu'il y aurait peut-être lieu de mieux faire les choses puis d'éviter toute problématique de contamination due à la COVID, là, de procéder là, par consultation écrite là, pour de 15 jours comme on l'a fait là, dans d'autres dossiers. Donc, on vous recommande de procéder de cette façon-là pour le dossier de dérogation mineure.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, clair. Est-ce que j'ai une proposition? Normand?
Secondé par Daniel.
7.5.
Suivi de la demande de PPC Moi, habitation jumelée Château d'Eau.
Je vais me retirer, Yves Lévesque.
Donc, c'est un suivi de la résolution 20-02-64 qui avait autorisé la construction d'habitations unifamiliales là, jumelées sur l'avenue de Château d'Eau, sur les lots 5,602,618. Je vais vous dire rien que les trois derniers chiffres des lots. Là, donc, le 618, le 621, le 623, le 625, le 628 et le 672. Donc, avant tous ces numéros-là, il y avait 5,602,000 qui étaient avant. Considérant qu'une condition contenue dans cette résolution est de déposer au CCU des recommandations, les plans d'évaluation, coupe des deux modèles projetés avant l'émission des premières demandes de permis de construction, considérant que les plans des modèles d'évêque numéro 2 et Raphaël ont été déposés avec des précisions satisfaisantes pour le CCU et qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable par le comité, on vous recommande de suivre la recommandation du CCU et d'accepter là, les deux modèles de jumelés qui ont été déposés. On vous en fait la recommandation.
Marie-Ève.
Ça me va, Normand.
Monsieur Lévesque va pouvoir revenir.
Bon.
Bon, monsieur Lévesque, vous êtes de retour. Oui, c'est correct.
Je peux revenir.
Oui.
J'ai un coup d'œil à la caméra de temps en temps, mais je ne sais pas.
C'est bon.
Fait que c'est réglé pour le point 7.5.
Oui.
Donc, 7.6, parfait. Première résolution de demande de Pépé, c'est moi, au 91 de rue Dodge.
Peut-être avant de débuter les demandes de PPC et moi, je me permettrais peut-être de faire une petite capsule pédagogique en matière de PPC et moi, parce qu'il y a quand même un certain nombre là, de demandes qui sont traitées aujourd'hui. On vient de faire un suivi de une, mais ça reste qu'il y a quand même des informations qui sont importantes. Je vais vous lire certains extraits là, de qu'est-ce qui est disponible sur le site Internet du MAMACH concernant le guide, la prise de décision en urbanisme sur le règlement sur les projets particuliers de construction. Le règlement sur les projets particuliers de construction et modification ou d'occupation d'un immeuble, là, qui est le règlement PP, c'est moi, P pour projet, P pour particulier, C pour construction, M pour modification, moi, le O, c'est pour occupation et le I pour un immeuble. Donc, je ne la répéterai pas, celle-là, non? Donc, le règlement PP, c'est moi vise à permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge de l'une ou l'autre des réglementations, des règlements d'urbanisme d'une municipalité. Donc, lorsqu'il y a des démarches de PPC et moi, puis vous allez le voir tantôt, on vous liste les éléments qui dérogent de la réglementation municipale. Donc, c'est un prérequis d'une démarche de PPC et moi. Puis le conseil a toujours l'opportunité de mettre les conditions qu'il souhaite pour assurer la réalisation du projet de façon conforme aux orientations urbanistiques. L'utilité, ben c'est le PPC et moi, c'est une technique qui permet de projets particuliers. La technique des projets particuliers est un outil commode qui facilite la mise en valeur d'emplacements problématiques. Par exemple, reconversion d'immeubles, insertion dans une trame urbaine. Paradoxalement, elle peut servir à autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme, un peu ce que je vous ai mentionné tantôt, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement de zonage, normes qui demeurent pertinentes pour le milieu environnant. En principe, M. Desragon, pouvez-vous juste fermer votre micro, s'il vous plaît? En principe, cette technique permet d'encadrer le développement urbain cas par cas. Il relève du zonage par projet, car à la suite de l'approbation de la demande, le nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non à toute la zone, comme le veut la pratique actuelle. Le règlement sur les pratiques particulières permet donc de déroger aux rigueurs des règlements d'urbanisme et de convenir d'un projet de construction, de modifier ou d'occupation d'un immeuble. Le projet peut ainsi satisfaire à la fois le requérant et son désir de mettre un immeuble en valeur. Il permet aussi de respecter le milieu où il pourrait s'implanter, ce qui faciliterait l'acceptation par la population du secteur. Il offre par le fait même une flexibilité et une plus grande adaptation à la spécificité des quartiers. Lorsqu'on fait des PPC moi, il y a certaines conditions qui sont préalables. Donc, avant de pouvoir l'autoriser, ben il faut qu'il y ait une constitution d'un comité consultatif urbaniste, puis le projet normalement est présenté au comité, puis il y a une recommandation en ce sens-là. Il faut bien entendu qu'il y ait un règlement sur les projets particuliers de construction, modification, d'occupation d'un immeuble, puis que ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité pour tous les projets particuliers. Donc, si ce n'est pas en cohérence avec le plan d'urbanisme de la municipalité, bien, ça ne tient pas. Juste pour vous expliquer au niveau des procédures de PPC et moi, donc, dans un premier temps, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a une présentation du projet au CCU et celui-ci émet une recommandation. Par la suite, il y a un premier projet de résolution qui est présenté au conseil pour adoption pour vérifier si le conseil est à l'aise avec le projet en question. Normalement, dans un cas où on n'a pas de COVID, il y a tenu d'une séance de consultation publique sur le projet en respect avec les exigences de publication des avis. Par la suite, il y a présentation d'un deuxième projet de résolution qui peut avoir été modifié à la suite des interrogations des citoyens. Le conseil adopte le deuxième projet de résolution s'il est d'accord avec le projet, encore une fois. Une fois que le projet de résolution est adopté, les citoyens peuvent solliciter la tenue d'un registre dans le but d'assujettir le projet à l'approbation des personnes habiles à voter, ce qu'on appelle le référendum. Si l'étape précédente n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de tenue de référendum, il n'y a pas de requête de registre, bien, le conseil peut adopter le projet de résolution final qui peut avoir évolué ou rester de la même façon, le même là, selon l'évolution du projet. À la fin du processus, le projet est soumis au conseil des maires pour la conformité là, au schéma étant dans l'obligation qui fait partie des obligations à suivre. Ça, c'est la procédure normale. Là, actuellement, on est en
Monsieur
mode
COVID. Guy, oui? Excusez, je ne veux pas te faire perdre ton bout, mais je veux quand même préciser que le comité du CCU est quand même composé de 3 citoyens puis de 2 élus. Oui. Un comité de 5 personnes.
Effectivement, c'est un point important à mentionner. Dans le cadre de la COVID, la procédure est un petit peu différente. Tantôt, je vous ai parlé de l'arrêté 2020-033 qui permet au conseil de tenir une consultation écrite au lieu de tenir une consultation publique de visu là, en expliquant le projet. Donc, c'est une particularité que le gouvernement a mis en place pour aider les municipalités à ne pas ralentir dans le traitement des dossiers. Donc, dans la première étape encore, le CCU, le projet présenté au CCU, c'est comme dans le cas normal. Là, donc, ça reste pareil. Il y a une recommandation qui est émise. Il y a un premier projet de résolution qui est présenté et adopté par le conseil. Ça ne change pas. Suite à l'adoption du premier projet de résolution, comme vous allez le voir tantôt, le conseil aura l'opportunité d'adopter une résolution pour remplacer la consultation publique par une consultation écrite de 15 jours. Donc, dans ce cas-là, bien, la ville doit préparer une présentation de projet, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans certains dossiers. On fait les avis publics nécessaires, puis on fait les affichages sur le terrain. Ça, c'est dans le but de rien faire en catimini puis d'informer le plus possible les citoyens. Les requêtes, contrairement à la procédure à 3 projets de résolution, comme dans la vie normale sans COVID, bien, dans le contexte particulier des consultations écrites, bien, les requêtes reçues agissent à titre de demande d'assujettir le projet à l'approbation des personnes à voter. Donc, autrement dit, toutes les demandes qu'on peut recevoir sont comme si on demandait un référendum. Donc, il y a des dispositions à respecter au niveau du nombre de demandes reçues, puis après, ben, dans tout ça, ben, le conseil doit statuer s'il va en référendum ou il ne va pas, ou dans l'option où s'il n'y a pas de requête, ben, il peut procéder à l'adoption d'un deuxième projet de résolution qui est le projet final qui équivaut au troisième projet de résolution qui est normalement présent dans la procédure normale. Donc, Donc, grosso modo, c'est qu'est-ce qui présente là, un petit peu là, le processus de PPC moi comme tel. Donc, je ne sais pas si vous vouliez apporter des éléments de complémentaires ou que vous aviez des questions. Ceci étant dit, là, j'entamerai là, le dossier du 81 rue Dutch, là, si vous n'avez pas d'objection.
C'est bon.
C'est bon.
Je pense que, merci des explications, je pense que c'était bien de l'expliquer et que tout le monde en prenne connaissance. Là. Tout le monde au même niveau, je pense que c'est important. Ouais. Fait que oui, on serait rendu au point 91 rue Dutch au point 7.6.
Donc, il y a une demande d'autorisation qui est déposée dans le cadre d'un PPC moi pour un projet particulier visant à procéder à l'ajout d'un étage à la résidence unifamiliale située au 91 rue Dutch à l'intersection de la rue Best. Considérant que le projet inclut l'agrandissement arrière de la maison sur un étage et l'agrandissement du garage, considérant aussi que la façade de la maison se situe sur la rue Dutch et que presque la totalité des habitations qui se trouvent sur cette rue là, possède deux étages et formant un milieu homogène. Constatant que le 91 rue Dutch se trouve aux limites de deux zones et que l'ajout d'un étage à cette résidence n'aurait pas d'impact sur les résidences voisines d'un étage situé sur la rue Best, considérant que le garage actuel se trouve à 4,49 mètres de l'emprise de la rue Best au lieu d'un minimum de 7,6 mètres exigés et que le garage et l'agrandissement projeté n'aggravent pas cette non-conformité. Considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet de cette demande et conditions greffées à cette recommandation, on vous recommande d'accepter la demande de PPC et moi visant l'ajout d'un étage au 91 rue Dutch. Parce que le projet déroge aux dispositions réglementaires suivantes. Ça, c'est tout le temps dans les présentations de projets ou dans les résolutions. Donc, dans ce cas-ci, on a en autorisant une résidence de deux étages dans la zone RA3, alors qu'un maximum d'un étage est permis dans cette zone-là. L'autre élément de dérogation, c'est qu'en régularisant la marge de recul là, du garage à 4,49 mètres, alors que le minimum est de 7,6 mètres. Et la dernière dérogation dans ce cas-là, c'est qu'en permettant que l'agrandissement arrière projeté soit à 5,58 mètres de l'emprise de la rue Best, alors que le minimum est à 7,6 mètres. Les conditions qui vous sont recommandées par le CCU, c'est que les arbres présents sur le terrain soient conservés. À défaut de se faire, ils devront être remplacés. Cette condition doit être remplie eu égard au projet concerné sous peine de nullité de la présente résolution. Donc, on vous en fait la recommandation.
C'est bon, merci. Est-ce que j'ai une proposition?
Daniel propose.
Proposé par Daniel, secondé par Marie-Ève.
Alors, on passe au 7.7, remplacement de l'Assemblée publique de consultation. De consultation par une consultation écrite, demande de PPC moi 91 rue Dutch.
Donc, on vous recommande de procéder par consultation écrite dans ce cas-ci. Donc, il y aura les procédures habituelles de présentation de projet, dépôt de la résolution, puis les avis publics nécessaires là, fait pour que l'ensemble de la population des zones limitrophes soit au courant du projet. Puis, c'est ça. Donc, on vous en fait la recommandation.
Chantal.
C'est tout. Chantal, secondé par Normand.
Alors, 7.8. Première résolution de demande de PPC moi, le lot 5,602,428 à l'intersection des rues Campbell et Cyr.
Donc, on se retrouve encore avec un deuxième projet de PPC moi. Donc, celui-là, il est relativement long, donc je vais vous le lire en très bonne partie. Donc, considérant que la demande d'autorisation d'un projet particulier visant à permettre la construction d'un bâtiment commercial à des fins de garage, de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles et d'établissement de vente et d'installation de pneus sur le lot 5 602 428 à l'intersection des rues Campbell et Cyr, considérant que le requérant n'est pas propriétaire du lot, mais qu'il détient un offre d'achat conforme qui est conditionnel à l'obtention du PPC moins, considérant que les plans et les perspectives déposées ont été déposés date là, du 13 mai 2020. Considérant que les plans d'implantation réalisés, eux, datent du 20 mai 2020, que ces plans n'incluent pas des informations détaillées requises concernant l'éclairage et l'implantation dans le cadre de l'analyse d'une demande de PPC moins. Considérant que la Ville a pris entente avec le requérant afin qu'il puisse déposer ultérieurement les plans de plantation et des plans d'éclairage du stationnement et du bâtiment projeté à la condition que ces plans soient analysés par le CCU préalablement à l'émission des permis permis de construction, considérant que bien que le bâtiment ne s'inspire pas du cadre bâti traditionnel de Bedford tel que le prévoit le règlement PIA, il présente un concept architectural de qualité et répond adéquatement aux autres critères applicables, considérant que selon les plans, le plan d'implantation, le lot 5 602 428 ne possède pas les dimensions requises pour répondre aux exigences réglementaires minimales de stationnement et que le nombre de baies de service, de bureaux et d'air de travail du bâtiment projeté laisse présumer un manque d'espace de stationnement. Considérant que la Ville ne désire pas que les emprises des rues Campbell et Cyr soient utilisées à des fins de stationnement pour suppléer aux débordements liés à cet établissement. Considérant que le requérant possède un terrain vacant non aménagé, soit le lot 5 602 398 sur la rue Cyr, en face du présent projet et qu'il est énoncé et qu'il ait énoncé la possibilité d'utiliser ce lot pour y stationner les véhicules de ses employés, considérant l'importance d'assurer la viabilité du projet, de maintenir l'aspect visuel de l'entrée de la ville et d'assurer la sécurité des lieux, considérant que l'importance de bien intégrer ce nouveau projet dans ses installations et ses installations au cadre bâti existant, porter un soin particulier au traitement des façades et encadrer l'entreposage extérieur. Considérant que le requérant s'est engagé à installer sur le toit uniquement de petites unités conventionnelles de climatisation et qu'aucun équipement spécialisé de mécanique, ventilation, climatisation, réfrigération ou autre qui pourrait être vu de la rue ne sera installé, considérant que le terrain, excusez-moi, est borné par le ruisseau Coslette sur les limites nord et ouest et l'importance de conserver à l'état naturel la bande riveraine existante, considérant que la recommandation favorable du CCU au sujet de la demande et des conditions greffées à cette recommandation. Donc, le conseil est conscient que le projet déroge de la réglementation du règlement de zonage comme suit. Donc, en autorisant la zone CC1, un bâtiment commercial à des fins de garage, de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles, soit la classe C3-1, et d'établissement de vente et d'installation de pneus, soit la classe C3-2. En autorisant la zone CC1, un stationnement comme usage principal, classe C3-6, sur le lot 5 602 398, en permettant que les cases de stationnement soient situées sur un terrain autre que celui de l'usage desservi, à savoir sur le lot 5 602 398, en acceptant l'aménagement de 3 entrées charretières sur la rue Campbell, alors qu'un maximum de 2 entrées est prévu. en permettant que la distance entre deux de ces entrées soit de 3,94 mètres, alors que le minimum requis est de 6 mètres, en autorisant que le terrain de stationnement soit séparé de la rue Campbell par une zone gazonnée et paysagée de 0,91 mètres au lieu du minimum requis de 2,5 mètres. Les conditions qu'on vous propose pour autoriser le PPC moi, c'est que les plans et perspectives déposés fassent référence au projet, que les lots 5 602 428 et 6 602 398 soient indissociables dans le cadre du PPC moi. Que la liste là, des documents identifiés à la résolution là, soit déposée au CCU et approuvée par le conseil avant l'émission du permis de construction. Qu'à l'intérieur de la bande riveraine, tous les arbres et les arbustes existants doivent être conservés de manière à préserver l'état du milieu naturel des lieux, de l'état naturel des lieux, à l'exception d'une bande gazonnée qui pourrait être aménagée et entretenue le long de la rue Cire entre la rue Campbell et le mur nord de l'édifice. Toutes les portes de garage du bâtiment devront être de couleur gris pâle pour assurer la qualité visuelle du bâtiment. Aucun équipement de mécanique de ventilation, comme on vous a mentionné tantôt, là, devra être sur le toit de la bâtisse, à l'exception des petites unités conventionnelles de climatisation. Aucun entreposage extérieur de matériel, équipement, pneus, jantes ou autre n'est autorisé, à l'exception des aires clôturées prévues à cette fin. En aucun temps, les objets entreposés ne devront être empilés de manière à dépasser la hauteur de la clôture et à être visibles de la rue. Aucun travail de réparation ou d'entretien de véhicules ne pourra être réalisé à l'extérieur du bâtiment. Tout nouveau branchement de service est à la charge du requérant, ainsi que les travaux de réparation de l'asphalte découlant de ces branchements. Tout branchement dans le ponceau de la rue Cire est à la charge du requérant et devra être coordonné avec les services des travaux publics derrière. Donc, afin de bien délimiter l'accès de l'établissement, compenser son absence de bordure végétalisée sur la rue Campbell, assurer la sécurité et l'aspect visuel des lieux et éviter le stationnement sur la rue de la ville, procédera au retrait du gravier de surface et l'ajout de terre végétale et de gazon entre la surface asphaltée et l'emprise libre. Donc, on vous en fait la recommandation.
Excusez la lecture, merci.
Mona.
Proposé par Marie-Ève, secondé par Mona.
Alors, on revient au 7.9, donc encore le remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite pour la demande de PPCMOI du lot 5 602 428.
C'est la troisième fois qu'on va dans cette démarche. Est-ce que j'ai une proposition à ce niveau-là?
Chantal.
Proposé par Chantal, secondé par
Marie-Pierre.
Alors, le point 7.10, demande de PPCMOI, le 16 Plex, rue Élisabeth.
Donc, encore là, je vais faire une petite page de pédagogie parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'informations qui ont circulé sur le projet, qui est beaucoup d'informations qui n'étaient pas toujours véridiques, donc pour ne pas dire fausses dans certains cas. Donc, il faut quand même considérer que le projet de 16 Plex qui a été proposé dans le cadre d'un premier projet de résolution, dans le cadre d'un PPCMOI, c'est un projet qui est localisé dans une zone industrielle. Donc, zone où ce que le propriétaire pourrait y construire un entrepôt avec une façade directement sur la rue Champagne, avec un beau grand mur là, au PAC sur la rue la rue Elisabeth. C'est pour ça aussi qu'on, d'une certaine façon, que le conseil a accepté d'aller de l'avant avec le projet, car il permettait quand même d'améliorer l'environnement immédiat dans la continuité des multilogements, et puis qui permettait aussi de répondre là, aux besoins de logements qui sont présents ou qui sont constatés sur le territoire de la ville. Il faut quand même aussi mentionner que c'est le premier projet qui a été soumis sur ce lot à la ville. Donc, s'il n'y a pas eu de projet de présenté à la ville, bien, il ne peut pas y avoir eu de refus dans le passé. Pour l'utilisation comme telle de ce site. Le promoteur, c'est gestion ISMEEL, représenté par M. Marc-René Morin, qui est quelqu'un de Châteauguay. Donc, il n'y a pas personne du membre de l'administration de la ville ou du membre du conseil qui est impliqué dans le projet. Le projet, ce n'est pas un HLM. Des loyers neufs avec un ascenseur impliquera un certain prix quand même qui devrait être plus élevé que ce qu'on retrouve dans la moyenne des prix de loyers sur le territoire de la ville. L'ajout d'un ascenseur, ce n'est pas une exigence parce qu'on est limité à 3 étages, mais ça reste que ça s'avère un atout pour le maintien de nos aînés dans leur communauté. Parce que c'est certain que des multilogements avec des ascenseurs, à ce que je sache, je pense qu'on n'en a pas. Donc, ça, à part l'habitat des rivières, là, ou peut-être d'autres, là, je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste que c'est un atout pareil pour garder nos personnes peut-être un peu plus âgées sur le territoire de la ville. La problématique du stationnement dans la rue Elisabeth ne devrait pas être un enjeu. Chose qu'on ne pouvait pas dire dans la présentation de projet, c'est que le propriétaire de l'offre de Bedford a l'obligation d'agrandir son stationnement. Ça, c'est prévu dans les modalités. Donc, lui, il a l'obligation de faire ça. Puis, par ailleurs, il prévoit convertir la grande salle de réunion qui a été utilisée dans les mois passés en espace locatif. Donc, des événements de location à grand déploiement, il devrait, ça se peut qu'il y en ait encore au cours des prochaines, d'ici la réalisation du projet, mais à moyen terme, il ne devrait plus en avoir. Pour ce qui est de la volumétrie du bâtiment visé par le projet, on invite les citoyens à aller visiter le 8 logements qui est situé au 38 rue Campbell. Le 8 logements et le 16 plex sont des bâtiments d'architecture similaire, soit des types de type moderne. Ils sont tous les deux d'une hauteur de 32 pieds. Les pignons sont de 4 pouces par 12 pour le 16 plex, qui donne une hauteur totale d'environ 43 pieds, et de 5-12 pour le 8 plex, qui donne une hauteur totale de 41,5 pieds. Le 16 plex a 10 pieds de plus large que le 8 logements de la rue Campbell. C'est certain que pour rentrer 16 logements, il faut aller chercher les logements à quelque part. Donc, c'est vraiment dans la profondeur du bâtiment qu'il y a une grosse différence parce que le 16 plex a une profondeur de 75,5 pieds, tandis que le 8 logements sur la rue Campbell a 41 pieds. Il faut réaliser qu'on compare un 16 logements avec un 8 logements. Donc, c'est normal que ce soit plus gros. Mais au niveau de la façade, sur la rue Elisabeth, on parle d'un bâtiment de 10 pieds plus large que ce qu'on retrouve sur la rue Campbell. Donc, ça, c'est une certaine mise au point qu'on tenait à faire. Tantôt, dans les autres dossiers de PPC et moi, on identifiait les éléments de non-conformité. Encore, comme on l'a fait dans les autres dossiers, je veux dire, la Ville a identifié quels sont les éléments de non-conformité dans ce projet-là. Donc, c'était facile de les identifier parce que la Ville l'avait déjà fait. Donc, si je les résume, il y en a 7. La classe d'usage R4, résidentielle multifamiliale, n'est pas autorisée dans la zone avec la fatigue et ma dyslexie sort un petit peu, excusez-moi. Donc, dans la zone IA1, où se trouve le lot 6 330 564 et 5 603 672. Le bâtiment possède 3 étages, alors que le maximum de 2 est autorisé dans cette zone. La marge de recul arrière du bâtiment principal est de 6,10 ou 20 pieds, alors que le minimum est requis de 7,6 mètres, soit 24,9 pieds. 2 cases de stationnement seront aménagées dans la cour avant, donnant sur la rue Élisabeth, alors que c'est interdit. Certaines cases de stationnement desservant le projet y sont situées sur le terrain autre que celui de l'usage desservi. Le stationnement aménagé sur le lot 5 103 672 se trouve à une distance de 1,22 mètres de la ligne de propriété ouest, alors que le minimum requis est de 2,5 mètres. Le lot utilisé pour la construction de l'habitation multifamiliale a une superficie de 1,995,7 m², alors que le minimum requis est de 2,960 m². Donc, il y a un certain nombre de conditions que le conseil a reliées à ce projet. Donc, oui, bien entendu, la réalisation du projet conformément au plan soumis, que le lot 6 330 564 et 5 603 672 soient indissociables, comme on l'a fait avec le terrain, le projet de la rue Cyr et Campbell. Que l'immeuble doit être desservi par des conteneurs semi-enfouis pour les déchets et le recyclage. Les arbres implantés doivent être à grand déploiement pour atténuer l'impact visuel du bâtiment. Il y a certains types ou formes d'arbres qui ne sont pas autorisés. J'inviterai les gens à aller lire le projet comme tel. Les arbres implantés dans la cour avant donnant sur la rue Champagne et Élisabeth doivent respecter un calibre minimal de 50 mm. C'est quand même du gros calibre comme arbre. Les haies existantes sur le côté est de la propriété doivent être conservées et protégées lors de la réalisation des travaux de construction afin de maintenir en vie et en santé les végétaux, formant un important écran visuel et diminuant ainsi l'impact sur les bâtiments voisins. Puis le revêtement extérieur de la remise doit être de la même couleur que le revêtement horizontal du bâtiment principal. Et ses portes devront être de la même couleur que celle de la porte de l'édifice. Donc, si je ramène un petit peu dans le processus, on est dans un processus de consultation écrite dans le cadre du projet de 16 Flex. On a reçu quand même un bon nombre de requêtes. Ces requêtes-là agissent à titre de demande d'assujettir le projet à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, les gens se sont qualifiés à exiger une demande de référendum. Donc, dans ce contexte-là, le conseil a 2 choix. Donc, soit de procéder puis d'aller en référendum ou de mettre fin au processus actuel. Donc, ce que nous, on vous recommande, c'est de mettre fin au processus actuel. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires.
C'est sûr que c'est un dossier. Merci des explications, Guy. C'est un dossier quand même qui avait été étudié de gauche à droite. Et, écoutez, je pense que la recommandation est de mettre un terme au PPCMOI actuel. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Oui, j'ai une question concernant ça. Si on met un terme au PPCMOI, ça veut dire qu'on n'autorise pas le projet dans sa forme actuelle?
on n'autorise pas le projet sous sa forme actuelle.
Mais y a-t-il une façon quand même, je ne sais pas moi, de le laisser. Tu sais, c'est comme si d'entrée de jeu, on stoppait un tel projet, puis tu as mentionné en entrée de jeu que c'était un projet intéressant pour la ville.
Mm-hmm.
Et est-ce que, je me pose la question, est-ce que le promoteur le sait qu'il y a une résistance du milieu?
Oui, le promoteur sait qu'il y a une résistance du milieu parce qu'on l'a contacté pour l'informer. Je pense que le promoteur, on s'est entendu aussi à ce qu'il fasse essayer de créer une perspective de la situation en insérant le bâtiment de son projet de bâtiment dans la trame urbaine de la rue Elisabeth pour voir qu'est-ce que ça peut donner comme look. Donc, cette démarche-là, la dernière fois qu'on y a parlé, est en cours. Là. Donc,
bon, il y a une ouverture de sa part. Fait que dans le fond, ce n'est que partie remise.
Ben, regardez, on va contacter le promoteur. On va voir qu'est-ce qui va être fait. Moi, je pense que malgré que ce que je vous ai recommandé dans les autres dossiers de PPC Moi, d'y aller en consultation écrite, je pense que s'il y a une nouvelle demande qui est déposée, ça sera d'y aller avec une consultation publique. De cette façon-là, on va pouvoir peut-être un peu plus répondre aux questions des gens, puis d'atténuer les craintes, puis un peu faire que ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, de remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à certaines informations qu'on a entendues dans le milieu. Donc, il faut quand même prendre le temps de présenter factuelle la situation. Je pense que, les contestations qui ont été formulées par les citoyens se résumaient grosso modo à trois choses. Là, oui, la volumétrie. Deux, la question du stationnement. Il y en a qui ont amené la notion que c'était trop moderne comme tel, comme bâtiment. Mais je pense que c'est La démarche a quand même été bien faite, là. Je veux dire, ça reste que les gens sont allés avec l'information qu'ils ont eue, puis de la façon qu'ils ont perçu le projet. Donc, là, je pense que l'idée, ça sera peut-être de réviser de la façon que le projet est présenté pour que le projet soit peut-être présenté de nouveau.
OK,
j'aime bien ton commentaire, Marie-Ève. Puis, tu sais, si on regarde le milieu de vie qu'on est en train d'améliorer avec Trémas qui est en train de mettre en place là-bas, et quand même sur la rue Elisabeth, c'est quand même la ville qui a amené le dézonage ou le lotissement des trois lots. Est-ce qu'il y a eu trois logis qui se sont bâtis? Je pense qu'on est en train de créer un bon milieu de vie. C'est juste de peut-être prendre un pas de recul pour mieux avancer. Peut-être sur la conclusion.
OK. Je trouvais ça dommage de stopper le processus à ce stade-ci. Puis même, j'étais dans l'interrogation me demandant si un référendum, ce ne serait pas justement une voie citoyenne pour aller de l'avant. Mais je comprends qu'on ne fait que prendre un temps d'arrêt puis sortir la tête du COVID, dans le fond, là, puis de se dire, OK, comment on peut mieux présenter le projet pour pouvoir justement y aller plus doucement qu'un référendum.
Mais ça peut aboutir pareil en même étape aussi. Là. Ça, c'est dans le processus de PPC Moi, ça peut être un aboutissement. Mais c'est pas ça qu'on souhaite non plus.
D'accord. C'est de voir aussi, c'est sûr que M. Morin a été contacté. Là. C'est de savoir aussi est-ce que lui est toujours disponible ou aller de l'avant pour reprendre. C'est une autre procédure avec délai là, qu'on se rajoute. On va avoir des réponses à ça dans les prochains jours.
D'accord, merci.
Merci beaucoup.
Merci pour les informations, merci. Guy.
Est-ce que la recommandation, c'est que le conseil annule le processus d'adoption du projet particulier et propose au promoteur de revoir son projet pour tenir compte des oppositions déposées par les citoyens de la ville de Bedford. Est-ce que j'ai une proposition ou un questionnement encore, là, ou une proposition à ce sujet-là? Merci. Je comprends bien, tout le monde est d'accord. J'aurais une proposition de Mona, secondée par Marie-Pierre, qu'on annule le processus présentement.
Ouais.
C'est bon pour tout le monde?
Oui.
Ouais.
Alors, si on continue, on est rendu au point 7.11, octroi d'un mandat j'estime incorporé pour l'embauche d'un inspecteur adjoint.
Donc, c'est... Oui, je m'entendais. Donc, oui, c'est une embauche là, d'un inspecteur là, supplémentaire pour, grosso modo, 3 jours sur un cycle de 10 jours. Donc, il va être présent là, un lundi sur deux et tous les jeudis. Donc, c'est selon les modalités, là, les mêmes modalités que ce qu'on avait octroyé comme contrat dans le cas de M. Samuel
Grenier,
merci. Donc, on vous en fait la recommandation.
Là, j'ai juste une question à tous. Là, dans la résolution, c'est marqué que l'inspecteur adjoint soit sur place ou en télétravail. Je comprends qu'il y a peut-être des restrictions au niveau des bureaux ou de l'espace physique, mais un inspecteur en télétravail, là, ça va. C'est vraiment pas l'idéal. Tu sais. Il y a du travail terrain à faire.
Mais on a repris, c'est parce qu'initialement, la première résolution, c'est qu'il y avait Justine faisant encore des activités de télétravail. Là. Mm-hmm. J'ai pas de problème à l'enlever. Là. C'est que de toute façon, depuis que les gens de chez Justine sont à la ville, ils sont sur le terrain. Donc, j'ai pas de problème.
Je confirme que les gens sont là, sont présents à l'hôtel.
Oui, puis faire suite à ça, je pense que M. Grenier, lors de notre CCU qu'on a eu, il a amené des photos, puis il a dit qu'il est allé directement sur les places, prendre les photos. Fait que je pense qu'il est pas mal actif, Samuel Grenier, je pense, là, pour l'instant. Fait que, je pense que Chantal peut dire la même chose, qu'elle a eu des photos qu'on a vues, là, qu'il nous a amené les photos au CCU l'autre lundi. Fait que, je pense qu'il va directement sur place, quand il y a des appels, il sera sur place.
Effectivement, j'appuie Daniel.
Est-ce que j'ai une proposition pour l'embauche du deuxième inspecteur adjoint?
Normand,
par Marie-Ève.
7.12. Mandat d'inspection pour gestion incorporé, désignation de Jules Brunet-Marino pour l'application de règlements municipaux.
Donc, la ressource en question, effectivement, c'est M. Brunel Marino, donc qui est déjà en place, qui travaille. Donc, on vous fait la recommandation là, de le nommer comme inspecteur adjoint là, pour l'application des différents règlements cités au projet de résolution.
Normand, secondé de Marie-Ève.
Siège numéro 5.
7.13. Dépôt et avis de motion du règlement 701-20-5 concernant la construction.
Donc, on vous a déposé un projet de règlement dans vos documents. Essentiellement, il y a une modification là, qui vise à ajouter un usage permis ou qui ne serait pas assujetti aux dispositions qu'on appelle communément anti-bunker. Là. Donc, c'est pour permettre les bâtiments là, de transformation, de conditionnement de produits de cannabis, compte tenu qu'on doit assujettir, ce type d'activités-là sont assujettis aux normes de Santé Canada qui imposent un certain nombre de mesures de sécurité qui font en sorte que ça tombe en contravention avec notre réglementation, notre règlement de construction. Ben on est en mesure d'identifier une petite modification à faire pour ne pas assujettir ce type d'usine ou d'usine de transformation de conditionnement de cannabis à l'application là, des normes anti-bunker.
Parfait. Est-ce que j'ai une proposition pour
Donc, on s'en fait, ben, c'est un avis de motion.
C'est un avis de motion. Ça me prend une personne pour faire l'avis de motion. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui veut donner l'avis de motion pour le changement au règlement?
Chantal.
Chantal. Merci.
Alors, c'est ce qui met fin au point 7.
À ce long point 7.
Excusez, peut-être c'est on a oublié un point. On a oublié un point parce que là, la modification au règlement de construction, il semble que ça doit être, c'est assujetti à une consultation publique. Donc, on vous recommande d'y aller encore par consultation écrite.
Normand.
Mona.
Pour l'avis écrite au point d'avis de motion. C'est bon. Mona, secondé par Normand. Ce qui compléterait le point 7, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Merci. Au point 8, Commission des travaux publics, M. Audet.
Merci, M. le maire. Rien de spécial. Là. Tout se déroule bien en ville, je crois, là, pour l'instant. Il n'y a pas de bris majeur. Au point 8.2, on aurait une autorisation de paiement à Mme Sylvie Detchum pour son honoraire de service d'Horticulteur.
Donc, c'est selon les modalités là, du contrat qui est octroyé à Mme Deschmin en vertu de la résolution 20-02-67. Le paiement en question s'élève à un montant de 6 000 $, incluant les taxes. Donc, on vous en fait une recommandation.
Est-ce que j'ai une proposition?
Je propose.
Normand, secondé.
Daniel, seconde.
Secondé par Daniel.
Au 8.3, autorisation de paiement, pavage Masca, réfection de la rue Sprix.
Donc, on parle du décompte. Du décompte numéro 1 pour la deuxième couche. Là. Ça fait drôle de décompte numéro 1 pour la deuxième couche, là, mais compte tenu que les travaux se sont faits sur deux années civiles, donc il y a une première, il y a des premiers travaux qui avaient été faits là, pour dans le cadre du contrat là, qui s'élevait à un montant là, de 167 993 $ et 25 sous, incluant les taxes. Donc, on vous propose de procéder là, au paiement final. C'est le décompte numéro 2 au paiement de la facture là, de 102 088 $ et 17 sous, incluant les taxes. Il faut quand même considérer qu'il y a eu certains coûts additionnels à cause qu'on a choisi de démobiliser l'équipe l'automne passé pour pouvoir la remobiliser cette année. Qu'est-ce qu'on appelle la taxe COVID aussi. Puis aussi là, la mise en place là, des chanfreins en pavage là, à l'automne dernier. Donc, c'est pas là pour coûter. Grosso modo, là, c'est les différents coûts supplémentaires qui ont été reliés au projet. Donc, on vous en fait la recommandation.
En réalité, c'est le paiement final des travaux.
Il y a peut-être là-dessus, là, je vais vous avouer que j'ai pas. Faudrait que je regarde là, si j'avais une retenue supplémentaire.
C'est marqué final, décompte numéro 2 final.
Final, bon. Donc, de toute façon, oui. OK. Donc, c'est le final.
Très bon. Un très beau projet. Bien réalisé. Je pense que les gens sont satisfaits du bureau de poste, le nouvel aménagement avec les tropages jusqu'à l'école Butler. Je propose.
Proposé par Normand, secondé par...
Chantal.
Chantal.
Bien. 8.4, autorisation d'achat, le panneau électronique pour le deck hockey.
Donc, effectivement, on a eu chercher des soumissions. Le plus bas soumissionnaire conforme a été l'Agora Inc. pour un panneau Dactronic Hockey MS 915. Donc, pour un montant de 7 036,47 $, incluant les taxes. Donc, on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai une proposition?
Marie-Pierre.
Mona.
Marie-Pierre, secondée par Mona.
C'est bien. 8.5, M. Coulon, correspondance.
Il n'y a pas de correspondance supplémentaire, M. Audet.
C'est bien, je vous remercie.
C'est bon, ce qui met un terme au point 8. Au point 9, autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires. Tout le monde en a reçu le listing des paiements. M. Deragon a passé à travers des factures, j'imagine.
Effectivement.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que j'ai une proposition pour le paiement des comptes mensuels?
Pour 121 000 OK, approximativement 121 800, je propose.
La seconde, Daniel,
par Daniel. Merci. Et on était au point Varia. On a l'autorisation de paiement de géophysique GPR international.
Donc, c'est les levées de bathymétriques qu'on a fait faire pour dans le but d'une analyse de la relocalisation de la prise d'eau dans la ville Missisquoi. Donc, la facture s'élève à un montant de 8 818,58, incluant les taxes. Donc, on vous en fait la recommandation.
Est-ce que j'ai une proposition? Normand, secondée.
Marie-Ève.
Secondée par Marie-Ève. On est au point Varia. Est-ce qu'au siège numéro 1, on a des questions ou commentaires?
Oui, j'ai vu, monsieur, le grand chevalier. Aujourd'hui, je me demandais si pour les travaux de la salle, vu que la salle n'est pas ouverte, de quelle façon ça peut procéder? Pour la réfection du plancher, est-ce que ça prend l'autorisation de la ville ou s'il peut commencer, comment ça fonctionne? Il va y avoir un petit peu d'informations là-dessus.
Il va falloir un permis de construction, hein?
Oui. Est-ce que...
Je reconnais le projet.
Oui. Est-ce que la ville doit décider de la surface ou si c'est les chevaliers qui décident?
Comment une proposition de déposer à la...
Est-ce qu'on peut mettre du confrère, du plancher flottant, de la céramique?
C'est ça que je veux savoir. Je crois qu'un projet devrait être déposé à la ville. À date, on n'a pas vu le projet. Ça date déjà de 3 ans.
On a eu la subvention, comme vous savez. Il veut savoir quel matériau, est-ce que c'est, vu que la ville est propriétaire, est-ce que c'est la ville qui décide de le sous-plancher, du plancher comme tel, avant d'émettre
Je vais parler avec M. Boulay, qui est gestionnaire
Perron. Au grand chevalier, pour ça aujourd'hui, c'est quoi le fonctionnement? Est-ce que c'est la ville qui décide du couvre-plancher pour émettre la chose totale du projet. Là. On dirait que du bois franc, comme je vous dis, de l'argent flottant, de la céramique, quoi que ce soit. C'est quoi les procédures de ça? Je voulais savoir ça.
OK. Mais là, il vous a demandé ça aujourd'hui?
À midi.
OK, c'est beau. Non, c'est parce que je peux vous envoyer un courriel ou m'appeler. Là, je vous dis, ça va très vite.
Il m'a dit ça ce midi. Parce que j'ai l'assemblée ce soir pour poser la question. Pour faire suite, on ira avec les procédures. Demander
du contact. De toute façon, ça va être plus avec M. Boulay.
Oui, c'est parfait. C'est juste qu'il y a un mec qui m'a dit ça ce midi, j'ai en parlé ce soir. Là. On fera le suivi. Je dirais qu'il fera ce suivi avec lui ou avec vous, là, qui vous appelle. Là. Il y aura un suivi qui sera fait. Merci.
C'est bon. Message numéro 2.
Oui, moi, j'ai un citoyen qui travaille. En fait, j'ai eu une plainte d'un citoyen qui travaille chez Chouanière, atelier d'usinage Chouanière. C'était une plainte concernant les camions. Je sais qu'on en a déjà parlé. Je pensais qu'on était arrivé à une solution sécuritaire pour tout le monde. Guy, je vais te faire suivre les messages qu'ils m'ont envoyés parce que j'ai des photos. Il se plaint que les vannes, les gros camions bloquent souvent leurs entrées de cours, donc ils ne peuvent pas rentrer et sortir, la visibilité est nulle. Puis ils bloquent l'entrée là, de Normandin, Chouanière et TC Métal. Dans le fond, il y a des pancartes pour nos parkings, mais les camions ne respectent pas ça. J'ai quelques photos preuve à la pluie. Et c'est ça. Bref, le citoyen m'a demandé de voir si c'était possible de faire un suivi ou qu'il y ait quelque chose qui soit fait là, pour assurer la sécurité des travailleurs de ces trois entreprises.
Marie-Pierre, j'avoue, j'étais un peu surpris du commentaire là, parce que personnellement, on a eu des problèmes, mais présentement, moi, je fais ça régulièrement. Mes parents restent dans le coin, puis je m'assure d'aller faire un tour. Puis, ils ont nettement amélioré la situation. Là. Je ne sais pas si c'est quoi de récent ou c'est quoi qui date. Là, comme
Moi, il m'a contacté le 5 juin. Ben, là, on est quoi? On est le 7. Ça fait une semaine et demie qu'il m'a envoyé ça.
Je peux refaire un suivi, mais il avait déjà aménagé sans que le stationnement, là, il mettait des. Et il y avait nettement eu amélioration là, parce que j'y allais régulièrement. Puis je vais porter une attention avec bon du même.
C'est ça. Bref, c'est ça. Moi aussi, j'ai été surprise, mais je me suis dit j'allais quand même vous apporter le point là, si tu peux avoir d'autres vérifications. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos quand il voyait des trucs flagrants, comme si on aurait des dates, des preuves. Faire un meilleur suivi.
Mais on est en attente. Bonduelle est en train de préparer des documents pour faire l'aménagement du terrain qu'ils ont acheté pour faire un aménagement de stationnement de 20 quelques voitures et tout.
Oui, c'est ça. Okay. Fait que moi, je vais quand même lui répondre qu'on est en attente pour les stationnements, mais juste quand même si on peut aller faire un
document. On fait ça sur une base régulière depuis un petit peu de temps. Bon, parfait. Je t'ai surpris parce que ça a été pas mal plus tranquille depuis un certain temps.
Oui. Voilà.
C'est bon. Siège numéro 3.
Moi, je voulais juste dire que j'appréciais que, je ne sais pas si c'est pour durer, mais j'appréciais qu'on ait enlevé les deux toilettes chimiques de l'entrée de la ville, qu'on les a mis entre les bâtiments. Je ne sais pas si c'était pour rester là, mais je trouvais ça beaucoup plus joli que quand on les voyait en rentrant dans le parc du square. Je ne sais pas si c'est pour rester ou non.
Ils sont enlevés les toilettes.
Mais ils étaient mis entre les deux blocs. Ou sont enlevés complètement?
Ils sont entre les deux, dans le passage.
Oui.
Le café rouge et vers la partie arrière.
Là, ils vont rester là?
Oui.
Ah, ça, c'est ça. Ça, je voulais dire que c'était beaucoup mieux à cette place-là qu'à l'entrée de la ville dans le parc. Voilà.
Oui. On est d'accord.
Ouais.
C'est bon? Est-ce que point siège numéro 4, excusez-moi.
On vous entend pas.
On vous entend pas, M. Deragon.
Là. Juste un point accessoire, condoléances à M. Paul Goulet pour son frère qui est décédé. C'est tout.
Parfait. Siège numéro 5 n'a pas d'autres points non plus à ajouter.
Merci. Siège numéro 6.
Madame Boulac.
Mona.
Mon heure est demandée à l'appareil?
Oui. Excusez-moi, oui. Non, j'ai rien non plus. Merci.
Parfait. Monsieur le DG, c'est bien?
C'est bien. Les vacances s'en viennent.
Les vacances s'en viennent. Merci beaucoup, tout le monde.
Bonne gorgée d'eau, là. Vous venez de m'avoir besoin.
Oui.
Je vous remercie tout le monde et bonne soirée.
On irait quand même. Pas pour aux heures, pas secondaire.
Je ne suis pas posé
par Mona. Moi, je pense que secondé par Daniel.
Oui.
On t'a l'embarras du choix. Choisis qui tu veux.
Donc, je me fais un enregistrement. Daniel.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Merci. Au revoir.
Bye.
Bye.